Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce tout début d'année 2022, eh bien une question. En plus des vaccins, pourra-t-on compter sur des traitements pour éviter les formes graves du Covid? C'est en tout cas le combat de Xenothera, une biotech nantaise qui a développé XAV19, un traitement qui en plus est efficace contre le variant Omicron. Pour en parler, nous serons en duplex dans quelques instants avec Odile Duvaux, la présidente de Xenothera. Notera. Et puis, autre invité de l'émission, toujours dans le domaine du secteur médical, c'est Arnaud Mascarel en plateau à mes côtés. Son entreprise FineEarth vient de finaliser une levée de fonds de 21 millions d'euros. FineEarth qui a conçu une mini-pompe cardiaque destinée aux patients atteints d'une insuffisance sévère. 2022 sera une année importante pour l'entreprise avec le début des essais cliniques sur l'homme. Et puis enfin, pour ce premier numéro inédit de l'année, nous parlerons également de la toute nouvelle licorne française, la première de 2022, c'est Payfit qui vient de lever 254 millions d'euros. Payfit qui propose aux PME et aux TPE de digitaliser leurs fiches de paye et autres process RH. 2022, donc, malheureusement, débute une nouvelle fois dans un contexte sanitaire compliqué avec l'explosion du variant Omicron du Covid-19. Cette année, sera en tout cas celle où il faudra apprendre à vivre avec le virus grâce aux vaccins, bien sûr, mais aussi grâce aux traitements qui pourront être proposés aux patients touchés par le virus. Eh bien, nous allons en parler avec Odile Duvaux, qui est en duplex de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de Xenothera, je le disais en titre, une biotech française qui a développé un traitement XAV19. Alors, expliquez-nous tout d'abord à qui ce traitement pourra s'adresser lorsque, comme on vous le souhaite, il sera mis sur le marché.
Alors, le XAV19, c'est un traitement qui est destiné aux patients qui passent un premier cap d'aggravation dans le développement de la maladie Covid-19. Vous savez que quand vous êtes contaminé, vous avez un temps d'incubation. Ensuite, vous avez une période qui dure en général 5 jours, pendant laquelle vous développez des symptômes, j'allais dire, relativement minimes. Et Dieu merci, après ces 5 jours, en général au 6e jour, vous récupérez pour la plupart des personnes concernées. Et un petit nombre de gens, à ce moment-là, passent un cap où ils commencent à avoir une atteinte respiratoire plus préoccupante. Et c'est à ce moment-là, entre le 6e et le 10e jour, en gros, que le XAV19 prend tout son intérêt, puisqu'il va éviter qu'une part là, de l'ordre de 20 à 25% des patients, on connaît bien ces chiffres maintenant, risque de s'aggraver sur le plan respiratoire au point de devoir aller en soins intensifs ou en réanimation.
Et la bonne nouvelle, donc vous l'avez annoncé il y a quelques jours, c'est que le XAV19 est efficace en plus contre le variant Omicron et il le sera peut-être, j'imagine, contre les autres variants dans les prochains mois ou les prochaines semaines quand il y en aura d'autres, s'il y en a d'autres.
Alors, le XAV19, c'est un anticorps polyclonal, donc il est très particulier dans ce cadre par rapport à tous les anticorps aujourd'hui sur le marché. Et de fait, nous avions déjà démontré qu'il était efficace sur tous les variants jusqu'au Delta qui circulait. La question du variant Omicron avait une importance particulière parce que tous les anticorps monoclonaux actuellement utilisés ont perdu 100% de leur efficacité, sauf un qui n'est pas aujourd'hui utilisé en France. Et donc, il devenait absolument indispensable de savoir si le XAV19 pouvait se substituer à tous ces médicaments dont l'efficacité est désormais nulle. Donc, nous avons très vite mis en place des tests et nous avons pu démontrer qu'effectivement, il était capable de bloquer le variant Omicron.
Et ces tests, vous les avez menés au CHU de Nantes. Je crois qu'il y a eu une étude qui s'appelle le Polycor. Est-ce que c'est la même étude qui a été menée au CHU de Nantes? Est-ce que vous avez les résultats définitifs?
Alors, il y a deux choses. Il faut bien distinguer deux choses. Les résultats positifs que nous annonçons sur le variant Omicron sont des résultats que nous obtenons aujourd'hui en laboratoire. En effet, aujourd'hui, il n'y a aucun essai clinique qui est en mesure de tester un médicament sur les patients atteints de variant Omicron, parce que d'abord, on ne les connaît pas, parce qu'il n'y en a pas assez, puis qu'un essai clinique, ça prend plusieurs mois. Donc, vu la diffusion rapide de ce virus, c'est trop tôt pour avoir des résultats chez les patients. Ce que nous avons fait avec le CHU de Nantes, c'est que nous avons fait, en collaboration avec eux, un essai clinique qui a démarré mi-2020, et qui est en cours d'analyse, et cet essai clinique qui effectivement s'appelle Polycor, et aujourd'hui en attente de ces résultats, même si je peux d'ores et déjà dire que nous avons suffisamment d'informations pour avoir été en mesure de déposer une demande d'accès précoce. Nous attendons cependant du CHU de Nantes qu'il nous délivre l'intégralité des données afin de pouvoir répondre aux questions tout à fait légitimes des autorités réglementaires.
Et vous attendez les résultats du CHU de Nantes à quelle échéance à peu près?
Oh, je pense que c'est une question de jour. Là, on est dans une telle phase qu'il me semble indispensable que tout le monde aille vite. C'est notamment une question éthique vis-à-vis des patients qui remplissent les hôpitaux en ce moment en France. Enfin, c'est une évidence pour moi.
Et c'est ensuite que pourra s'accélérer cette autorisation de mise sur le marché précoce que vous avez donc lancée, vous nous le rappeliez. Comment ça se passe? C'est quoi les principales étapes de cette mise sur le marché? Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce qu'elle pourra se faire très rapidement dans l'année 2022?
Alors, nous avons déposé un dossier dès le mois de septembre. Nous sommes, comme je vous le disais, en attente des données cliniques. La NSM et la HAS ont démontré qui sont les autorités françaises qui délivrent cette autorisation, ont démontré dans l'année qui vient de s'écouler, même les 2 ans qui viennent de s'écouler, leur capacité à réagir très vite. Donc aujourd'hui, nous pensons que dans la mesure où le CHU nous donnera les données que nous attendons, il devrait être relativement rapide pour les autorités réglementaires de se prononcer. Maintenant, comment vont-elles se prononcer ? Vous savez que nous sommes dans un pays où les autorités réglementaires sont indépendantes. On l'a vu récemment même vis-à-vis d'un ministre. Vous souvenez-vous du cas du Molnupiravir juste avant Noël. Et je trouve que c'est bien, c'est-à-dire que ces autorités, je ne maîtrise pas leurs décisions. Effectivement, je suis confiante, sinon on n'aurait pas déposé de dossier. Nous considérons que le rapport entre le bénéfice du XAV-19 et un éventuel risque qui n'existe pas est en faveur du XAV-19 et pousse à l'autorisation d'accès précoce. Cela dit, les autorités décideront leur âme et conscience et en toute indépendance.
Est-ce que ce marché des anticorps polyclonaux, donc est-ce qu'il est très concurrentiel? Est-ce que vous avez d'autres labos qui sont sur le même créneau en France et dans le monde à l'heure actuelle?
Alors, c'est un secteur qui a été un peu ignoré, mais qui, de fait, est extrêmement important pour lutter contre les virus, parce que les virus, ça mute, ça fait des variants, comme on le sait. Et donc, on sait aujourd'hui que sur le Covid, il y a une dizaine de projets dans le monde entier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que couvrir les besoins de l'ensemble des patients qui auront besoin d'anticorps polyclonaux nécessite des capacités de production que Xenothera n'aura pas avant plusieurs années. Alors, nous sommes les plus avancés parce que nous sommes partis très tôt et parce que nous avions, dès 2015, identifié le coronavirus comme une cible intéressante. Et pour répondre à votre question sur les laboratoires français, il y a un autre laboratoire qui utilise une technique différente à Lyon, qui est aussi sur un sujet de polyclonaux.
Et une toute dernière question, donc Odile Duvaux, une question un peu plus business, on est sur BFM Business. Vous avez fait une levée de fonds, je crois, de 20 millions d'euros juste avant l'été dernier. Est-ce que d'autres levées de fonds sont dans les tuyaux? Voire pourquoi pas, comme votre collègue nantais Valneva, une introduction en bourse?
Écoutez, bien sûr, compte tenu de l'espoir que représente le XAV-19, y compris d'un point de vue business, puisque nous avons des demandes du monde entier plusieurs fois par mois, et par ailleurs de l'ensemble du portefeuille de produits de Xenothera, qui est un portefeuille étoffé avec un autre produit avancé en clinique et un autre qui rentre en clinique, nous avons tout à fait des ambitions pour devenir un des champions mondiaux des polyclonaux et rester un fleuron de l'industrie française.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Odile Duvaux, d'avoir été l'invitée aujourd'hui de La France a tout pour réussir. Et on espère donc cette mise sur le marché très rapidement. de votre produit, le XAV 19. Merci d'avoir été notre invité. À présent, merci. Donc, une nouvelle licorne française, je vous le disais en titre, c'est la 22 ou 23e selon les décomptes. En tout cas, il s'agit de Payfit, start-up créée il y a 6 ans seulement et dont on suit la croissance très régulièrement sur BFM Business. Alors, Payfit, qui vient de lever 254 millions d'euros, propose aux PME et aux TPE de digitaliser leurs fiches de paye et plus globalement tous ces process RH si chronophages. Payfit compte déjà 700 collaborateurs et va en recruter 400 autres dans les prochains mois. La jeune licorne est déjà présente en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Firmin Zocchetto, le PDG et cofondateur de Payfit, était cette semaine l'invité de Sandra Gandouin et Audrey Maubert dans Good Morning Business.
Payfit, c'est une solution qui permet de digitaliser les fiches de paye et les process RH auprès des TPE et des PME. Donc vous avez un restaurant avec 12 employés, une boulangerie avec 4 employés, coiffeur. Vous pouvez utiliser Payfit pour gérer vos fiches de paye, vos congés payés, vos notes de frais. Le contexte actuel a accéléré le besoin de digitalisation et il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont rendus compte ces derniers mois qu'ils avaient besoin d'avoir le contrôle sur leur paye, sur les process RH, d'avoir des réponses en temps réel quand il y avait des questions sur l'impôt à la source, le décalage des cotisations URSSAF ou des congés payés, le chômage partiel. Et du coup, ces outils digitaux qui permettent aux entrepreneurs qui travaillent dans des petites structures, dans des sociétés qui ont moins de 100 employés, de gagner énormément de temps dans la gestion RH.
Juste une précision, à l'heure actuelle, ça représente quel volume de clients, combien de PME ?
Alors aujourd'hui, Payfit sert 6500 entreprises.
Et sur un marché potentiel de ?
Alors, il y a des millions de TPE et de PME. Là, on est en train de parler de la France, mais Payfit est aussi présent en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, on vise vraiment à servir des millions d'entreprises et des millions de personnes. C'est aussi pour ça qu'on a envie d'accélérer, qu'on fait ce tour de table pour pouvoir servir toutes ces entreprises qui ont ce besoin de digitalisation de leur process RH.
Vous avez recruté déjà massivement en 2021. Là, ça va vous permettre encore de recruter des centaines de personnes encore cette année ?
Exactement. On est 700 chez Payfit en Europe, majoritairement en France. On va recruter 400 personnes cette année. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de recrutement pour soutenir cette croissance.
Mais est-ce qu'il y a une aura maintenant, French Tech, licorne ?
Oui, c'est vrai que quand on était 5 dans la société il y a 5 ans, c'était un petit peu plus compliqué.
Ça paraît logique, mais est-ce que l'écosystème maintenant, face à la concurrence ?
L'écosystème est plus puissant et l'écosystème français est sur une courbe ascendante. C'est très agréable. Il faut continuer comme ça, continuer à construire des sociétés qui grandissent très vite, qui sont fortes, qui peuvent rester indépendantes par rapport à des géants américains qui viendraient vouloir les racheter. Et c'est effectivement, je suis très... très optimiste, très confiant sur le futur de l'écosystème français qui est en pleine phase de rattrapage et il y a pas mal de sociétés qui le montrent aujourd'hui.
Et cet écosystème français était bel et bien présent cette année encore au CES de Las Vegas. La French Tech, malgré les restrictions sanitaires actuelles, comptait quelques 140 start-up, aux côtés également de plus grands groupes français comme Dassault Systèmes. On va retrouver d'ailleurs dans quelques instants l'un de nos envoyés spéciaux à Las Vegas, Raphaël Couder. Mais tout d'abord, et Firmin Zocchetto, le patron de Payfit, l'évoquait à l'instant, il est essentiel pour nos start-up de grandir, d'aller conquérir de nouveaux marchés. C'est le message en forme de vœux pour 2022 qui est venu délivrer sur notre antenne Maya Noël, c'est la directrice générale de France Digital. On l'écoute.
L'année 2022 va être très importante et déterminante pour le futur des startups parce qu'on vient de connaître des très belles années, notamment l'année dernière qui est une année record pour l'écosystème tech français avec plus de 10 milliards d'euros levés. Il va falloir transformer l'essai en 2022. Et on a des échéances qui sont très importantes pour l'écosystème, notamment la présidence française de l'Union européenne qui vient de débuter au début du mois de janvier et les élections qui arrivent. Et donc, il va falloir faire en sorte, et c'est le rôle de France Digital, qu'on se donne les moyens de consolider tout ce qu'on a réussi à créer et de dépasser justement ce stade de la levée de fonds pour créer des véritables champions du numérique en France et en Europe.
Le CES, c'est l'occasion de se mesurer également à ce qui se fait à l'international. l'écosystème français ne fait pas trop petit d'écosystème français là-bas?
On n'a vraiment pas de quoi rougir. On a une très très belle délégation, une des plus grosses. Et ça va être une super opportunité pour nous de rayonner à l'international. Et c'est décisif, notamment dans le combat qu'on mène pour attirer des talents. Car c'est aujourd'hui le principal frein pour nos startups pour grandir. Donc moi, je trouve ça très positif et je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir.
Et alors, comment on attire les investisseurs aujourd'hui? Avec quels arguments?
Alors, je pense qu'il y a déjà cette question d'image, et donc c'est important, je pense, d'être représenté à l'international, et aussi par le fait qu'on a des super technologies, on a des start-up aussi bien dans la deep tech, mais aussi ce qui est intéressant, je pense, en France et en Europe, c'est qu'on est capable aussi de produire des start-up à impact, et ça va être, je pense, très important, puisque aujourd'hui, le consommateur cherche à avoir de l'impact, cherche à consommer plus responsable, cherche à avoir un bienfait environnemental et social.
Et donc, c'est aussi un critère d'attractivité pour les investisseurs, mais aussi pour les talents?
Tout à fait. Les deux sont liés. Et c'est vraiment notre combat, notamment dans le cadre des présidentielles. Il va falloir faire en sorte qu'on puisse toujours continuer pour nos startups d'être plus innovants, d'attirer des talents, d'attirer des capitaux et surtout de s'ouvrir des opportunités de marché. Et nous, dans les combats qu'on mène, et ça marche aussi avec la présidence française de l'Union européenne, je pense que le combat se fait à la fois à l'échelle nationale et européenne, c'est l'accès à la commande publique pour nos startups qui peuvent représenter un super marché.
Avec également l'enjeu du financement dans les territoires, parce que finalement, c'est un peu le synonyme de cet écosystème, d'un écosystème francilien. Et là, désormais, il faut qu'il y ait un maillage du territoire plus concret, et notamment en matière de financement.
Alors, des startups, il y en a beaucoup, effectivement, en Ile-de-France, mais il y en a de plus en plus en région. On a des très belles licornes qui sont implantées en région. Je pense à des Miracle, je pense à des Doctolib, à des Back Market, qui ne sont pas que à Paris. Et effectivement, les startups sont un formidable levier pour redynamiser les territoires.
Bonjour Arnaud Mascarel.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le directeur général de Fine Art. On va longuement parler dans quelques instants de votre activité et de la levée de fonds de 21 millions d'euros. Mais tout d'abord, une réaction à ce que vient de dire la patronne de France Digital sur l'importance de la présence de la tech, pas simplement en Ile-de-France, mais dans les régions. Vous-même, vous êtes en Gironde.
C'est ça, nous on est basé à Pessac, à côté de Bordeaux, donc on fait partie de la French Tech de Bordeaux. Et en fait, on s'est basé dans cette région puisque l'écosystème bordelais est reconnu mondialement pour la cardiologie. Donc l'IHU de Bordeaux, qui est un IHU spécialisé en cardiologie, fait partie des 6 IHU en France. Et tout l'écosystème d'incubation dont on a pu bénéficier nous a permis de grandir. Donc on a créé la société en 2010 et aujourd'hui on est plus de 50, basés sur Pessac, et on va continuer à grandir. Donc c'est important effectivement que les régions et la French Tech soient non pas simplement basées en Ile-de-France, mais représentées partout.
Dans tous les territoires, comme on dit.
Tout à fait.
On en parle dans un instant, mais donc avant de parler plus en détail de votre activité, on va faire un crochet, un très grand crochet même par Las Vegas, avec un sujet qui va vous intéresser. C'est le jumeau numérique développé par Dassault Systèmes dans le domaine de la santé. Le groupe français était donc présent au CES de Las Vegas où nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux de BFM Business, c'est Raphaël Coudert.
C'est une expérience inédite que propose ici Dassault Systèmes sur son stand. Chaque visiteur peut aller à la rencontre de son jumeau numérique. Concrètement, il suffit de se placer juste ici, derrière moi sur le stand, et des capteurs vont aller modéliser en 3D les organes de votre corps avec lesquels vous pourrez ensuite interagir. Alors, c'est avant tout du show, hein, une façon pour Dassault d'expliquer au grand public son concept de jumeau numérique, une technologie qui est déjà utilisée. Aujourd'hui, nous expliquait Steven Levin, le responsable du développement de ces jumeaux numériques chez Dassault Systèmes.
Aujourd'hui, l'usage prévalent dans le monde scientifique, c'est le développement de traitements. Les laboratoires pharmaceutiques déploient de meilleurs médicaments et nous commençons à collaborer avec des hôpitaux pour leur montrer comment créer virtuellement chaque patient et s'assurer de comprendre et d'anticiper les futures opérations. Pour cela, nous avons d'éminents médecins partout dans le monde qui perfectionnent notre technologie.
Plusieurs milliers de chirurgiens travaillent en effet déjà sur les cœurs numériques de Dassault Systèmes pour préparer leurs interventions, mais au-delà, cette technologie, elle est aussi utilisée par des entreprises de la santé, comme le groupe Abbott, par exemple, qui fabrique notamment des valves cardiaques. Bref, un potentiel immense, à la fois d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue business pour Dassault Systèmes, qui ne compte pas s'arrêter là. Après le cœur humain, le groupe développe actuellement un clone du cerveau, et ce sera ensuite autour des poumons et de la peau, des innovations qui devraient être dévoilées plus en détail dans les prochains mois.
Voilà donc Raphaël Couder, un des envoyés spéciaux de BFM Business au CES de Las Vegas. Est-ce que vous-même, chez FineEarth, comme Abbott, vous avez recours aux jumeaux numériques de Dassault Systèmes?
Alors, pas aux jumeaux numériques, mais le Living Heart, donc le fameux cœur numérique qui permet de modéliser et d'anticiper un petit peu les différentes interactions que peut avoir un dispositif avec le cœur humain. Donc, c'est des choses qu'on regarde de près, même si ce cœur numérique est plutôt orienté pour des applications électriques ou des valves cardiaques. Ce que nous développons, je vais développer un petit peu après, est assez unique, donc nécessitera des adaptations. Mais oui, on regarde ça de près, c'est important.
Eh bien, parlons-en dès maintenant. Ce que vous développez, donc voilà, des valves cardiaques, des mini-pompes cardiaques, c'est quoi le cœur d'activité de FineEarth?
Alors, le cœur d'activité de FineEarth, c'est vraiment le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère, c'est-à-dire lorsque le cœur n'est plus capable d'assurer son rôle de pompe et d'éjecter de façon suffisante le sang au niveau de l'organisme pour oxygéner l'ensemble de l'organisme. Il faut avoir recours à des dispositifs, à des stratégies thérapeutiques différentes. Et nous, ce qu'on développe chez FineEarth, c'est une petite turbine qui fait la taille de mon index, qu'on va implanter directement dans le cœur, dans le ventricule gauche.
Que l'on va voir sur certaines images que l'on a en stock, là, voilà.
Qui va se synchroniser avec la contraction cardiaque pour accélérer le débit au moment où le cœur se contracte, qui n'est plus capable d'éjecter. On va mettre le petit coup d'accélérateur, le petit coup de boost synchronisé pour supporter la contraction cardiaque et revenir à une éjection normale.
Et la différence avec les pacemakers, par exemple?
Alors, le pacemaker traite les problèmes de rythme cardiaque, donc les problèmes électriques. Nous, on est vraiment sur un problème hémodynamique, fluidique. Donc là où le pacemaker n'est plus capable d'assurer finalement une fonction de contraction cardiaque, nous, on met le petit coup d'accélérateur qui va accélérer le débit cardiaque.
Les insuffisances cardiaques sévères dont vous parlez, ça concerne combien de personnes? Est-ce qu'il y a des chiffres France, des chiffres monde également?
Alors, l'insuffisance cardiaque au sens large, c'est plus d'un million de patients rien qu'en France. C'est plus de 50 millions dans le monde. C'est la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans tous les pays du G7. Et lorsqu'on parle d'insuffisance cardiaque sévère, on est vraiment dans des phases où les médicaments ne sont plus assez efficaces. On doit donc recourir à ces stratégies thérapeutiques. Et là, on parle de plus de 200 000 patients chaque année dans les pays du G7. En France, c'est plus de 70 000 décès de patients qui donc décèdent de cette maladie cardiovasculaire.
Le plus de votre technologie, vous diriez que c'est le côté moins intrusif quand on l'installe, c'est aussi le suivi qui est facilité, c'est vraiment les vrais plus de votre technologie?
Alors, on change complètement de paradigme avec ce qui pouvait exister ou ce qui est en cours de développement dans d'autres sociétés, puisque le dispositif est complètement implantable. Donc pour la première fois, on va implanter la pompe directement dans le cœur, et donc effectivement on le fait de façon mini-invasive. On n'a pas besoin de faire une sternotomie, d'arrêter le cœur. On fait tout ça à cœur battant. On passe entre les côtes et donc on insère la petite turbine directement dans le ventricule par une chirurgie qui va durer une heure et demie. Contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, on a des chirurgies qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont durer 4-5 heures avec les risques post-chirurgicaux qui sont très importants.
Et la vie quotidienne des patients est plus simple aussi. Enfin, des patients à terme, hein, bien sûr.
Oui, alors le principe de notre dispositif, c'est de ne pas remplacer l'activité cardiaque, la contraction cardiaque, mais vraiment de la supporter. Un peu comme le vélo électrique.
J'aime bien l'image.
Voilà. Si on n'appuie pas sur les pédales, on ne montera pas la côte. Par contre, quand on appuie sur les pédales, on a une petite assistance qui nous permet de faire en sorte que finalement, c'est comme si on roulait sur du plat. C'est exactement le même principe. Le cœur se contracte. Le cœur, il est encore vivant. Hein. La contraction native est là, certes altérée. Et nous, on met le petit coup d'accélérateur qui permet de retrouver un débit cardiaque normal. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un système qui soit totalement implantable. L'énergie nécessaire pour alimenter notre dispositif, du coup, va être beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir avec les dispositifs actuels. Et donc, on a réussi à développer un système où la batterie est totalement implantable. On va la recharger sans contact. Donc, on va éliminer tous les risques d'infection qui peuvent être liés à des dispositifs qui ont besoin de recourir à des batteries externes avec des câbles qui sortent de l'abdomen. Donc, tout est implantable. Et donc, en termes de qualité de vie, le patient va pouvoir prendre une douche, avoir des activités tout à fait normales, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui avec les dispositifs actuels.
On va parler business. Si vous êtes là, c'est que vous avez finalisé il y a quelques semaines une levée de fonds sur l'année 2021 d'un total de 21 millions d'euros. C'est important. À quoi vont vous servir ces fonds?
Alors, aujourd'hui, on est dans une phase dite préclinique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les dernières étapes avant de passer sur les essais sur l'homme. Donc, ces 21 millions d'euros doivent nous permettre de faire tous les derniers essais qui restent nécessaires pour avoir les autorisations pour passer sur l'homme, les derniers développements et donc ce qu'on appelle la pré-industrialisation. Donc on a eu la chance dans le cadre de cette augmentation de capital d'avoir des industriels qui sont rentrés, notamment un industriel qui s'appelle le groupe Lawak, qui est un expert principalement de l'aéronautique, mais qui va se diversifier.
Qui est dans les Pyrénées-Atlantiques.
Et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et le groupe Doliam, qui est un expert de l'électronique implantable dans le médical, qui nous permet de pouvoir accélérer les développements et de nous mettre en ordre de marche pour les phases d'après, que seront l'industrialisation et la mise sur le marché.
Le calendrier, donc on le répète, les essais sur l'homme en 2022, ça va se passer où? En France, Europe, est-ce que vous
ça
savez?
Ça se passera en Europe. Pour l'instant, on ne peut pas discloser l'endroit, puisqu'on est en train de discuter avec différents centres, mais ça se passera en Europe, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment une étude qui va être une étude dite de faisabilité. On parle de quelques patients. On va démontrer la capacité d'implanter à cœur battant notre dispositif et démontrer sur quelques mois l'efficacité du dispositif. Donc on sera principalement sur des patients qui sont sur liste de greffe, donc des patients les plus graves. Et cette étude-là sera le préalable d'études plus larges qui seront des études de marque HCE, des études américaines qui nous permettront d'accéder au marché.
Vos objectifs, donc, c'est la commercialisation d'ici 2025, ça reste une actualité.
C'est toujours l'objectif.
En France et aux États-Unis, je vous entendais parler de l'importance du marché américain, ça reste aussi un de vos objectifs.
Ouais, le marché américain, hein, c'est 50% du marché mondial. Dans toutes les maladies cardiovasculaires, on parle de l'insuffisance cardiaque, mais toute maladie cardiovasculaire confondue, 50% du marché mondial se trouve aux États-Unis. Et donc, c'est indispensable pour des sociétés comme la nôtre de s'installer et de développer des structures réglementaires, cliniques et commerciales aux États-Unis pour accéder à ce marché.
Les levées de fonds, il y en a eu plusieurs depuis votre création. On est, je crois, à plus de 40 millions d'euros maintenant. Donc, oui. On a dit celle de 21 millions en 2021. Ça va aussi à embaucher. Quels sont les effectifs à l'heure actuelle à votre siège de PESAC et quels sont les objectifs d'embauche pour les prochains mois?
Alors, on est aujourd'hui 45. En 2021, on a embauché une dizaine de personnes. On a 10 recrutements prévus sur l'année 2022. L'objectif, c'est donc de dépasser 50 employés à temps plein au sein de la structure. On travaille bien entendu aussi avec tout un tas de consultants externes, etc. Donc, on a une petite centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le projet, que ce soit des employés temps plein ou des experts qui gravitent autour du projet.
Eh bien, on suivra donc l'aventure de Fine Art. Merci beaucoup, donc
merci
Arnaud
beaucoup.
Mascarel, d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir. Je précise que vous participez également à un grand rendez-vous de ce qu'on appelait avant les objets connectés. Ce sont les assises de l'embarqué. Ça aura lieu à Bercy la semaine prochaine. Et on y reviendra notamment, nous, dans l'émission la semaine prochaine également. Merci donc d'avoir été notre invité. Rendez-vous le week-end prochain sur BFM Business. Il est encore temps de vous souhaiter une très belle année 2022. À très bientôt.
BFM Business, la France a tout pour réussir.